Multimédia.
Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Multimédia. Moi, c'est Liam et on est toujours diffusé sur RCN 97 et Radio Campus Lorraine sur vos stations DA+, sans oublier les sites internet respectifs. Multimédia, c'est votre émission politico-médiatique pour mieux vous informer sur vos sources d'information.
Multimédia.
Alors, on va évidemment représenter l'équipe. À ma gauche, Pablo.
Bonjour.
Comment ça va, Pablo ?
En pleine forme.
Encore plus content.
Le mec dit ça, il a un masque, il est malade et...
Non mais les gens
il
le voient pas,
rendez-vous.
Ils ne l'entendent pas. Non mais si, ça va ça.
Encore plus à ma gauche, il y a Julien.
Bonjour.
Salut. Bonjour. Et on a aussi au téléphone, petite surprise, on a tout simplement Martin. Est-ce que tu nous entends ?
Eh oui, bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver.
Ah oh, le king, ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu ta petite voix là. Alors, au programme, tout simplement, on va déjà commencer par les informations, suivies d'une nouvelle partie. Attention, ça s'appelle la définition. On va tout simplement définir un mot. Je ne vais pas vous dire le mot tout de suite, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Suivi ensuite par la chronique de Martin. Martin, de quoi parle ta chronique un petit peu ?
Eh bien, on va un petit peu parler pluralisme dans les médias et notamment de temps de parole.
C'est bien, ça va être super intéressant. Suivi ensuite de Pablo, tu nous parles de quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un de spécial?
Non, je veux pas parler de quelqu'un de spécial.
Enfin, ah bon?
Bah non, je veux parler de...
Tu m'as dit...
Les réseaux dans la sauce. J'ai dit que j'allais en placer une pour quelqu'un.
D'accord, ok.
J'ai pas dit que j'allais parler que de lui, mais je vais en placer une pour quelqu'un.
Et évidemment...
Moi, je vais tacler son père aussi.
Wesh. Et évidemment, entre chaque partie, évidemment, il y a Julien qui nous a préparé tout simplement la noix Tatix.
C'est, ouais, quoi, c'est, la noix tatix,
c'est quoi la noix tatix?
C'est un schmilblick que Liam a brillamment inventé. Parce qu'en fait, c'est des citations cultes que je mets à l'envers. Et donc, voilà. Noix tatix, ça fait citation à l'envers.
Exactement. Wow. Mais tout
technique,
de suite...
Hein. Bien trouvé. Hein.
Hey. Mais tout d'abord, du coup, on va commencer par les informations.
Ouais.
Mauvaise échelle. Alors, on va passer un petit problème de maths. Sortez vos cahiers. Quelle est la différence entre 12% et 6,5%?
5,5. Ben
oui, la moitié.
Je crois bien,
oui. La moitié, vous me direz, environ la moitié. Eh bien, contre toute attente, ils sont parfaitement égaux.
6.
Ils sont parfaitement égaux en fait. Source France Info. Sur un sondage réalisé sur les intentions de vote des présidentielles 2027, réalisé par Elab, le graphisme présenté sur le plateau constituait de grossières erreurs d'échelle. Sur un communiqué posté le lendemain sur sa diffusion, France Info déclare, je cite, les chiffres du sondage en question sont corrects, mais l'échelle du graphique n'est pas la bonne. Il s'agit évidemment d'une erreur humaine, sans aucune intention de manipulation éditoriale de la part de nos équipes.
Okay.
Donc un tableau en plus sur la galerie des dysfonctionnements en cours au sein de l'audiovisuel public. Renflouement de luxe. C'est LVMH qui sauve pour la troisième fois en 10 ans le quotidien Le Parisien, actuellement en grande difficulté financière. Approuvé ce 21 novembre à hauteur de 140 millions d'euros, ils avaient déjà ressorti le journal de l'eau en 2018 et 2022 à des sommes inférieures. Une recapitalisation, c'est le mot, qui n'aliène pas les inquiétudes de la rédaction du journal, qui s'était manifestée en octobre de cette année contre la rumeur d'un rachat du Big B, c'est-à-dire Bolloré.
Bobo.
C'est notre petit bobo. Encore. Alors, on avait beaucoup parlé en mai-juin de Trump qui n'est pas fan des médias publics internationaux. Est-ce que vous vous en rappelez?
Ouais, c'est possible ça.
Eh bien, rebelote. Le service hongrois de Radio Free Europe, subventionné par les États-Unis, a eu son financement coupé. Surprise. C'est un arrêt de fond qui arrive quelques mois avant les élections municipales hongroises. T'as RSF, Reporters sans frontières, qui dénonce un nouveau coup sérieux porté aux droits des Hongrois à la formation. On peut tromper une fois. Alors, je vous parle d'un truc. Pour organiser un mariage, parfois, les mariés, tu vois, ils réservent une salle de spectacle en montant sur l'utilisation de la salle parce que certaines salles ne veulent pas avoir de mariage, tout simplement.
Ah, ou même, des fois, il y en a qui font la location plus chère pour des mariages que
c'est
pour
ça,
des anniversaires.
Voilà. Mais du coup, c'est pour sauver de l'argent et tout, et c'est un peu discreto, c'est pas très honnête, mais ça existe. Pourquoi je vous parle de ça ? Vous demandez. Parce que Fayard a utilisé cette technique pour la promotion du deuxième livre de Bardella au Théâtre Marigny. Théâtre Marigny, d'ailleurs situé à proximité de l'Elysée, Jordan 93-20, est peu subtil sur ses intentions. Alors, Fayard connaît déjà une rentrée exceptionnelle avec le nouveau livre de De Villiers et Zemmour et ses Mister RN qui clôt les festivités. Alors, pas la peine de les lire. Pour donner là, enfin, les couleurs, le nom du grimoire du roi du Puy du Fou est bleu, blanc, rouge. Voilà.
En plus, c'est un autre bouquin là qui va pop bientôt là, non?
Ouais, bah.
Aux éditions Fayard.
Oui, bah Fayard, il charbonne,
un petit journal. Bon, enfin.
Enfin, ce 15 novembre, fausse alerte à la bombe à BFM TV. Interruption de 2 heures de direct après un appel anonyme, accusant au passage la chaîne de propagande. Les locaux de RMC ont aussi été vidés, causant plus de peur que de mal. C'est tout pour les news, Julien. Est-ce que tu n'aurais une citation, ou plutôt, pardon, une noitatis pour nous?
Une noitatis. Oui, premier audio, Joris, tu peux y aller. Dirait un peu du Virlang.
Sarkozy.
Ça. Ouais, c'est Sarko, ça.
Non. C'est pas Sarko?
C'est pas Sarko.
Non, non, non.
Alors là, je suis perdu.
Hollande. Oh, Chirac.
Ouais, c'est Chirac. Et qu'est-ce qu'il dit?
Ah bah ça, par, ça pour le coup, ça pour le coup.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Chichi? Qu'est-ce qu'il dit?
Notre maison brûle. Oui. Nous regardons ailleurs.
C'est vrai ça.
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
Contre la vie.
Contre la vie.
Moi, ce que je trouve drôle, je l'ai mis un peu plus long pour qu'on ait un peu le contexte et tout ça. Mm. C'est Chirac qui dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il parlait de ça en 2002. Mm. On est en 2025.
23 ans après.
La cup crame. Ça crame toujours, mais on s'en va les couilles.
Il est plus de 2 degrés en 2030. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, merci Julien pour ce petit retour 23 ans en arrière où ça n'a pas changé. Tout de suite, on va passer à la définition. Le mot du mois, c'est éditorialiste. Alors, pas journaliste, éditorialiste. Alors, on va faire des petits rappels. Et décrit comme journaliste, je cite, « Toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, y pratique à titre régulier et rétribué le recueil des informations et leur diffusion au public. » J'ai rien compris. Et est considéré comme éditorialiste toute personne qui écrit l'éditorial d'un journal ou exprime son opinion sur un média. Voilà. Bon, c'était pas clair comme ça, mais je vais un peu développer. Alors, je parle des éditos, donc éditorialistes, mais des éditos spécifiquement car ils ont une grande différence comparée aux journalistes. Tout journaliste doit de s'accorder avec la déontologie du métier, car c'est plus que des articles. Mais l'éditorialiste n'est pas soumis à ces règles, si ce n'est que le strict minimum des interdits audiovisuels de l'ARCOM. Alors, l'édito a toujours fait partie de la presse et reste une partie essentielle. La ligne éditoriale du journalier est présentée en fonction de l'actualité, sans interférence, en théorie, avec la rédaction des articles par les journalistes. Or, avec les chaînes d'information en continu, ce contenu qui jusque-là a été principalement divisé en flux, c'est-à-dire pensé sans rediffusion, est devenu un programme de stock destiné, où je vais arriver, à être rediffusé. C'est sous ce développement que la représentation d'éditorialiste est plus importante aujourd'hui. On ajoute à ça un rôle de l'éditorialiste devenant plus un avatar de lobby et d'autres opinions répréhensibles légalement par l'ARCOM. Alors, c'est un développement qui a déjà été relevé par la Société des journalistes de France Télévisions, qui a demandé ce 2 avril 2025 une réflexion collective sur le rôle des éditorialistes à France Télévisions. Fin de citation. CNews, par exemple, désolé, j'ai dit C-Word, première chaîne d'information de France, elle fait intervenir principalement des éditorialistes sur ses émissions phares. Donc, on parle évidemment de l'heure des pros, l'heure des pros 2, l'heure des pros week-end, l'heure des pros 3. Et les autres chaînes d'information les font de plus en plus intervenir entre les reportages. J'invite d'ailleurs à ouvrir l'œil la prochaine fois que vous regardez une de ces chaînes. Le bandeau indique systématiquement le rôle de l'interlocutrice. La surreprésentation de ces éditorialistes provoque une méfiance accrue des médias, avec un amalgame entre journalistes et éditorialistes. Alors, surtout pour l'œil non informé, qui va voir le journaliste sur le même plateau que l'éditorialiste, et donc faire le raccourci. Pas étonnant. En gros, on va résumer. Un journaliste rapporte des faits de manière neutre et objective, et un éditorialiste analyse ces faits et exprime un point de vue ou une opinion. Ce n'est pas la même chose. Merci, c'est tout pour la définition.
Alors du coup, le petit quiz, nous, on est des journalistes ou on est des éditorialistes?
C'est une très très bonne question, j'ai jamais réfléchi.
On n'est pas neutre.
On est des bénévoles.
Non, mais on n'est pas neutre. On n'est pas neutre. On n'est pas neutre.
Julien.
Ah, c'est marrant.
Justement, est-ce que tu as une autre noix tatis pour
oui,
nous?
J'en ai une autre.
Oui, j'ai des élos. L'un de chambre, moi je suis à l'arbre à l'air, et une autre machine, mais je vais à l'arbre à l'air. Arrête la vie, mon gazon, laisse l'en bas, mais on finit. C'est inimé, l'autre, mais j'ai une autre noix de noc. Ah, il est inimé, je vais à l'arbre à l'air.
La voix, vous l'avez, c'est Hollande.
Ah, c'est Hollande, c'est Hollande, ouais.
Moi j'ai vu une autre machine, mais je vais à l'arbre à l'air, mais je vais à l'arbre à l'air.
Wow.
Coup de poker, you are what you want, doobie-doo.
Non,
pas ça, ok.
Non, ça aurait pu. Non, ça aurait pu, mais non.
Martin?
Ah là, je l'ai pas du tout, celle-là.
C'est vrai que c'est dur. T'as un petit indice ou pas pour nous, pour nous avancer ou...
Bah, j'ai dit, il est en train de tacler quelqu'un. Il est en train de tacler quelqu'un.
Il est en train de tacler Sarko, là. Bah, alors, donc... qu'est-ce qu'il raconte?
Il est en train de tacler Sarko.
Ça me dit quelque chose, mais j'ai plus le truc exact en tête.
Je sais pas.
Ok, il est en train de tacler Sarko dans quel contexte?
Sur un débat...
Sur un débat d'entre-deux-tours.
Ouais. Mm-hmm.
Un discours mythique du débat d'entre-deux-tours de Hollande, c'était...
Ah, oh, mince.
Bah, les gars. Vas-y,
moi, président de la République, je n'aurais pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques.
Ah ouais.
Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives...
Voilà, alors c'est rigolo, j'ai pris les trois exemples. Le premier, il parle des médias. Le deuxième, il parle... qu'est-ce qu'il dit déjà? Merde. Le deuxième, il parle
de la déontologie.
Oui, déontologie.
La déontologie, et ensuite, ministre, il a quand même nommé Macron comme ministre. Enfin bon, voilà. Et la troisième, il parle des législatives. J'ai vérifié sur Internet, quand on lui a reposé la question et qu'il a... on a reposé la question en mode vous avez dit que vous alliez refaire les législatives à la proportionnelle, et en 2014 il était là non c'est pas vrai. Ça m'a fait rire.
Très bien, bah, merci Julien pour cette deuxième citation à l'envers. Tout de suite, Martin, on va tout simplement démarrer ta chronique sur la pluralité des temps de parole.
Bonjour l'équipe de Multimédia, bonjour à tous. Cette semaine, je vais vous parler pluralisme dans les médias. Alors pourquoi maintenant, me direz-vous? Bah déjà, on est sûr que les infos ne seront pas périmées d'ici quelques jours, parce que le mois dernier, je vous parlais du traitement médiatique de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, et depuis cette émission, il a déjà eu le temps de sortir de prison, d'écrire un bouquin pour dire « ouin ouin, c'est dur la prison », et puis pour finir, a été condamné de façon définitive dans l'affaire Big Malion, tout ça en un mois. Enfin bref, on s'égare. Si je voulais vous parler du pluralisme et temps de parole, c'est notamment parce qu'a été lancée il y a pile une semaine la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, cette commission d'enquête voulue par Éric Ciotti suite à l'affaire Cohen-Legrand, à qui on reprochait d'avoir discuté dans un café avec des cadres du Parti Socialiste. Ciotti qui voulait, je cite, « enquêter sur la neutralité, le fonctionnement et le financement des médias publics ». Bon, pour rappel, Éric Ciotti a 3 enquêtes en cours pour détournement de fonds publics. Et donc pour anticiper les travaux de la commission, je me suis intéressé de plus près au temps de parole sur les chaînes info et sur les stations de radio, en particulier celles du service public. Et Ciotti reproche notamment à ces stations de trop donner la parole à la gauche. Alors vous commencez à me connaître, on va aller voir les chiffres, parce que oui, dans Multimédia, on fait pas des analyses aux doigts mouillés ou au whisky pour Elisabeth Lévy. Je suis allé chercher les chiffres sur le site de l'Arcom, et j'ai regardé les temps de parole des invités politiques sur le mois dernier, au mois d'août, pour France Info Radio, qui appartient à Radio France. Le résultat, c'est que 28% du temps de parole est accordé à l'exécutif et au président, 26% à la droite, 5% à l'extrême droite et 41% à la gauche. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? La règle de l'Arcom est la suivante: hors période électorale, un tiers du temps de parole pour l'exécutif et le président de la République, et les deux tiers restants en fonction du poids des différents partis. Et là, il n'y avait visiblement pas de règles plus précises que cela. Donc pour France Info, le tiers dédié à la part gouvernementale est globalement respecté. La répartition du temps de parole des autres partis, là, est plus difficile à juger, mais penche légèrement à gauche, même si c'est pas flagrant. Bon, là-dessus, la commission d'enquête n'aura pas grand-chose à dire, mais déjà, c'est le travail de l'Arcom qui veille au grain au quotidien. Il y a quelques jours, Reporters sans frontières a publié une enquête sur les temps de parole des invités politiques sur les chaînes de télé d'information continue. Pour rappel, il y en a 4 en France, hein, BFM TV, CNews, LCI et France Info Télé. Bon, c'est pratique, RSF, ils vous font le graphique à ma place. En fait, en ce qui concerne le service public, donc ici France Info TV, puisque c'est l'objet de la commission d'enquête, plus de 27% du temps de parole est accordé à l'exécutif. On est pas loin du tiers hein, qui est demandé, 23% pour le centre, 24% à la gauche, 13% de droite et 13% pour l'extrême droite. Donc le pluralisme semble bien respecté. Encore une fois, Ciotti et la commission d'enquête n'aura rien à se mettre sous la dent sur ce point. Et je vous entends en studio à Nancy me demander, et pour les autres chaînes info alors, et bah globalement, les chiffres sont les mêmes. Le plus gros écart, c'est sur la place de l'extrême droite qui est 2 fois plus importante sur... Et non, pas sur CNews, Liam, sur LCI, avec plus du quart du temps de parole qui leur est accordé, c'est étonnant. Et là, Pablo, je sais ce que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Depuis quand CNews n'est pas la chaîne qui laisse le plus de temps de parole à l'extrême droite? Calmez-vous, Reporters sans frontières, à trouver l'explication. Entre minuit et 7h du matin, l'extrême droite n'a que 1,7% de temps de parole sur CNews, contre 60% pour la gauche et 30% pour les centristes. Et sur les horaires les plus exposés, en matinale et en soirée, la gauche tombe à 15%, tout comme le centre, 28% de temps de parole pour la droite et plus de 40% pour l'extrême droite.
Wow. Oh, comme c'est bizarre.
Alors rassurez-vous, c'est toujours open bar pour les fachos sur CNews. Donc c'est pratique de diffuser la gauche la nuit quand personne ne regarde. Et là, Julien, ta question est très pertinente. Est-ce que c'est légal tout ça? Eh ben non, et heureusement, l'ARCOM interdit ces rattrapages de temps de parole nocturne. CNews a déjà été rappelé à l'ordre pour ça, mais visiblement ça continue. En résumé, donc, sur les chaînes info, hormis CNews, vous pourrez globalement trouver toutes les opinions politiques équitablement représentées. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public peut déjà enlever cette partie à l'ordre du jour. On gagnera du temps. Par contre, quand tu te réveilles en pleine nuit et que tu allumes CNews, si tu veux une rediffusion du discours de Mélenchon, c'est pas parce que t'es pas bien réveillé, non, c'est juste Bolloré TV qui fait du rééquilibrage du temps de parole. D'ailleurs, au Japon, avec le décalage horaire, en fait, tu pourrais croire que la chaîne est de gauche. Mais bon, en France, au petit matin, pas de panique, vous retrouverez tous vos fachos préférés, de Marion Maréchal à Jordan Bardella, en passant par Philippe de Villiers et Tonton Zemmour, pour vous expliquer que la République va s'effondrer à cause du voile et dire bah, qu'on ne peut plus rien dire.
Allez, des bisous du Nord et à très vite, l'équipe RCN.
Ah, merci, Jean-Martin, bravo.
C'est une dinguerie quand même.
Bah ouais.
Enfin, je vous achète, c'est japonais.
C'est ça.
On veut aussi ce décalage, nous.
Non, mais Martin, comment t'as réagi quand t'as découvert ces chiffres?
Bah, déjà, on pouvait se douter effectivement de la surreprésentation de l'extrême droite, mais vraiment d'avoir les chiffres, en fait, c'est toujours assez impressionnant quand même, je trouve. Alors après, là, on a eu ces dernières heures, là, au moment où on enregistre l'émission, l'ARCOM qui a remis en cause certains chiffres de Reporters sans frontières. Et Reporters sans frontières maintient en tout cas tous ces chiffres. Bon, enfin, après, de toute façon, l'ARCOM avait déjà envoyé des sanctions en tout cas, ou des des sanctions à CNews pour avoir fait du rééquilibrage du temps de parole la nuit. Donc déjà, même l'ARCOM le reconnaît, quoi.
Eh bien, merci Martin, merci pour ces petites précisions post-chroniques. Tout de suite, on se retrouve après Regueta Blanc de Zipolis, et ensuite, ce sera au tour de Pablo. Hey, chauffe tes cordes vocales.
À tout de suite.
Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN.
Multimédia, deuxième partie. Julien, tu ouvres cette deuxième partie avec une autre citation à l'envers.
Ouais, celle-là, elle est vraiment difficile.
Oula.
Vraiment difficile.
Osez longtemps, c'est le fils. On se fait sous les 100 fois. Mais là, les.
Alors, qui c'est?
Sarkozy.
Non.
Quoi encore? Mais pourquoi toutes les voix?
Il
n'y
a pas de Sarkozy. Hein.
Mais toutes les voix à l'envers, ça ressemble à Sarkozy.
Bah, c'est parce que c'est des mecs, quoi. C'est des mecs, des présidents qui posent le cadre, qui sont stricts.
Président, tu dis?
Ouais, là, il n'y a que des présidents cette fois-ci. Celle d'après, c'est un indice aussi pour celle d'après, sera un président.
Chirac. T'es pas plus loin, c'est ça?
Allez, on va tous les faire, les présidents. Allez-y.
Allez, Giscard. Mitterrand, ouais.
C'est Giscard. Ah, ok, c'est Giscard.
C'est Giscard.
Qu'est-ce qu'il dit, Giscard? À qui il le dit? Quand?
Giscard. Non, c'est pas ça.
Ok, il le dit dans un débat d'entre-deux-tours.
Ah mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
C'est pas ça, non, c'est, ça c'était Chirac.
C'est Mitterrand face à Chirac. Là, c'est Giscard face à Mitterrand.
D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres.
Je suis désolé, mais il y a merde, ouais, je suis fatigué. Il y a Pablo qui à l'instant vient de pull-up des photos de Giscard d'Estaing.
Ouais, je voulais. Non, parce que je suis en train de me dire,
il est pas resté longtemps président, lui, je crois. Hein.
Ouais. Non. Et puis en 2020, mon prof d'histoire, il nous avait imposé une minute de silence. Quand il était décédé, déjà.
Ah ouais.
Les gars,
c'est le dernier Giscard.
Du temps pour ce grand monsieur qui est parti. Ok. Soit.
Mais ouais, cette phrase-là est plus subtile, on la connaît un peu moins. Mais moi, ça me fait rire d'avoir toujours cet écart de... On voit la différence de d'animosité dans les débats en 74 face à aujourd'hui. Là, ça nous balance des poutres de perlimpinpin, des dans les villes, dans les campagnes. Là, on a quand même un mec, on se dit, ouah, le clash du siècle, il dit juste, vous n'avez pas, monsieur, le monopole du cœur.
À l'époque, ouais, t'avais une rhétorique qui était beaucoup plus apaisée, tu vois.
Ouais.
C'était un peu du soft power plus que du je crie plus fort que toi.
Et pourtant, c'était beaucoup plus violent.
Ouais. Ouais.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Ouah, comment ça claque,
la phrase de fou. Ouais.
Mais justement, c'est une histoire de communication, justement. Et en parlant de communication, il y a aussi les réseaux sociaux numériques sur qui on communique.
Waouh.
Et erreur de ma part, pardon, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose du
mais
coup.
Bien sûr, parce que je vais vous en parler en fait. L'émission derrière, je vous parlais de ma prise de distance avec les médias pendant la saison estivale, si vous vous souvenez, et vous allez sûrement me prendre pour un babos, mais je l'avais prédit. Vous pensiez que je n'étais qu'un réac, un boomer, comme disent les Jones, mais je vais vous prouver que cette fois-ci je visais juste, j'ai enclenché la dynamique du monde, agenouillez-vous face à cette info. Pour la première fois, l'usage des réseaux sociaux diminue. Mais comment avez-vous fait pour lire dans l'avenir? Pardonnez notre manque de foi, ô grand Pablo. Pas d'inquiétude, vous pouvez aller sans mal. Écoutez simplement ma nouvelle chronique sur Multimédia. Tu peux... Ouais, merci Joris. Ok. Bon bah j'espère que mon intro vous a plu. Il n'y a pas de contexte, hein. Vraiment, l'idée m'est venue spontanément.
D'accord.
Enfin, voilà.
Oui, tu nous as dit que c'était en ce gag.
Voilà, voilà. Donc, du sérieux. Allez, la chronique. Donc, on disait, pour la première fois, l'usage des réseaux sociaux diminue. Et oui, c'est une étude qui nous le dit, du Financial Times et du Global Web Index, la preuve pour ceux qui ne me croyaient pas. Selon cette étude, on assiste à la première baisse de temps passé sur les réseaux sociaux depuis 2012, période de l'avènement de ces fameuses plateformes. Alors 2012, il faut se souvenir, hein, il y avait Psy qui nous sortait Gangnam Style, si vous vous souvenez. Il y avait Beansport qui débarquait à la télé, Hunger Games qui sortait au cinéma, Disney qui rachetait Lucasfilm. J'étais aussi officiellement diplômé du CM1. C'était le bon temps, le prime. Mais voilà, il n'empêche que depuis 2012, l'utilisation des réseaux sociaux, elle n'a pas cessé d'exploser. Année après année, de plus en plus d'inscrits, de plus en plus de contenus, de plus en plus de conneries et de trucs intéressants aussi, il faut le dire. Hein. Jusqu'en 2022, date depuis laquelle cette dynamique
s'inverse. Alors attention, c'est surtout le cas en Europe. Aux États-Unis, l'usage des réseaux continue d'augmenter. Il semble que ce soit indexé sur le nombre d'Afghans expulsés du territoire. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il y a moins de contenu. Au contraire, depuis 2020, le Covid en fait, tout le monde s'est connecté sur les plateformes pour garder un contact avec l'extérieur. Sauf qu'entre-temps, c'est un peu devenu la foire au vin. Surgissement de TikTok, démocratisation du format des Reels, de plus en plus d'influenceurs, de marques, de médias, d'entreprises, des algorithmes améliorés pour toujours nous montrer quelque chose de passionnant ou pas du tout. Résultat, on scrolle à l'infini sans savoir depuis quand. En 2022, la moyenne de temps passé sur les réseaux était de 2h20 par jour. Tout cumulé à l'échelle d'une vie, ça fait 16 ans. 16 ans, bon, c'est suffisant pour Morandini, mais c'est surtout beaucoup de temps perdu. Et ce qui est intéressant, c'est que 16 ans, c'est l'âge à partir duquel cet inversement de tendance est frappant. En effet, c'est les 16-24 ans qui lâchent le plus les réseaux sociaux. Et ça, ça témoigne d'un profond changement d'état d'esprit. Hein. Si vous pensez que les jeunes, ils sont cons, ils disent que des dingueries, gros, bah pas du tout. Ça se veut même parfois militant. Par exemple, avec le mouvement du dumb phone, à l'inverse du smart, hein, smart intelligent, dumb Louis Sarkozy, ce mouvement se veut comme un retour. Okay. Voilà, je l'ai placé, vous okay. le savez, il était là. Ce mouvement se veut comme un retour aux fonctions primaires et purement fonctionnelles du portable. Les applications naissent pour rendre l'interface de votre téléphone plus neutre, moins attrayante, plus utile et moins divertissante. Dites-vous que certains reviennent même au téléphone à clapper. Sans déconner quoi, des années de prouesse technologique pour revenir au BlackBerry.
Mais c'était pas si mal.
Bref. Vraiment. Et en fait, ça vient pas de nulle part. Il y a un sentiment de saturation grandissant. Vous avez tous déjà eu mal au crâne parce que votre séance de scroll vous a lessivé le cerveau. Et le format des reels, des shorts est pensé pour qu'on puisse pas y résister. On reçoit des petits shots de dopamine à chaque nouvelle vidéo et ça fait du bien, mais à force, ça épuise. Dites-vous que l'inventeur du défilement infini, c'est Azar Askin, et le mec est parti en dépression, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait créé une vraie arme de destruction massive. Le mec, c'est Oppenheimer, là. Christopher Nolan, il est déjà en train de bosser sur un biopic. Et sauf que toute cette manipulation de notre temps d'écran, bah, elle se retourne. Comme, ça s'impose comme un refus de se taper en boucle des vidéos d'Indiens qui construisent des maisons en terre, interrompues par une énième décision de merde aux États-Unis ou par les aventures de Ballerina Cappuccina. Putain, j'en peux plus de ce truc. On observe un phénomène de reconquête de son temps, une volonté d'authenticité, une recherche de réalité face à un trop-plein d'infos pas toujours pertinentes. Bon, je vous l'accorde, de la racheter un Nokia Lumia, faut faire gaffe parce que bientôt Desigual va redevenir à la mode. En tout cas, même si les décrocheurs ont des goûts de chiottes, bah perso, ça me donne quand même un peu envie de les suivre pour une fois. Et si vous aussi, vous vous sentez parfois un peu saoulé de toutes ces vidéos, bah sortez prendre l'air, faites une bouffe entre potes, lisez un bouquin. Ça vous semble peut-être chiant, mais promis, ça aussi ça donne le smile. Merci de m'avoir écouté.
Merci Pablo.
Ouais. Mais il y a une semaine de sans smartphone, je crois, en avril.
Oui. Exactement. Oui,
qui est organisé par un collectif à Nancy. Ouais, ils proposent d'animer des plein d'ateliers,
des activités,
faire plein de trucs pour
ouais.
sortir.
C'est ça.
Et
pour faire d'autres choses en fait.
Ouais, ouais.
Le challenge, c'est lâcher vos bigots. Et ouais, je trouve ça stylé que les jeunes, surtout, lâchent ça parce qu'on a tendance à se dire que c'est les jeunes qui passent le plus de temps, mais au final, ouais. pas du tout. Enfin,
je me posais même la question de m'acheter une deuxième carte SIM pour avoir un téléphone pro tactile et un téléphone perso BlackBerry.
Bah, c'est même les parents, je trouve, qui scrollent plus que nous à des fois.
Des fois, c'est ça aussi. Mon père, il scrolle de fou.
Julien, rapidement, est-ce que tu peux prendre notre dernier ?
J'en ai une dernière.
Pour finir.
De Gaulle. Je vous ai compris.
J'allais dire, c'est De Gaulle ou c'est de la
France ?
Je vous ai compris.
C'était sûr.
Je vois que la route que vous avez ouvert en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
La rénovation.
Alors du coup, c'est sur ces sages paroles républicaines qu'on va finir l'émission. Merci Martin de participer de la file de la baraque à frites. Elle est un peu longue, mais tu reviendras nous les ramener les frites. Ne t'inquiète pas, on a hâte de les avoir. Merci Julien, merci Pablo aussi pour vos chroniques et on se retrouve le mois prochain.
Des
Salut.
Bisous.
Salut.